voilà qu'on part maintenant à Tokyo. Dites donc, avec vous Samuel Bollendorf, vous êtes photographe et vous publiez Tokyo aux éditions Democratic Books, qui est un livre de photos absolument magnifique en couleur. Ça a son importance, on va l'expliquer, qui ont été prises à Tokyo. Donc Samuel, on vous connaît surtout pour un travail engagé sur des sujets très forts, l'hôpital, les prisons, les ravages du sida ou de la croissance économique chinoise. Est-ce que ce ne serait pas là votre premier ouvrage purement esthétique ?
Alors, purement esthétique, j'espère qu'il n'est pas que purement esthétique, mais effectivement, c'est un essai, c'est vraiment un essai sur la couleur, mais qui a été très important parce qu'il m'a justement permis d'essayer d'aller travailler sur la forme que je pouvais après réutiliser. Ces expériences-là, je les réutilise en permanence dans mon travail social, en fait. C'est-à-dire que l'enjeu là, c'était d'essayer d'aller jouer sur le sentiment, d'aller chercher des choses avec les couleurs, mais aussi en s'émancipant complètement des codes du documentaire, en recadrant, en jouant sur les formats, en faisant des diptyques, en associant les images, et puis vraiment en travaillant la couleur. L'idée, c'était d'essayer d'aller vraiment travailler l'affect. Et après, ce registre-là, je l'utilise quand je travaille sur des sujets sociaux.
Alors, si vous parlez des couleurs et de l'affect, on va y venir tout de suite. Vous êtes replongé dans les fameuses études de Kandinsky à l'époque du Bauhaus, qui est grand peintre, on le sait, mais aussi un grand théoricien de l'art. Alors, ça va être difficile de résumer en quelques minutes sa théorie des couleurs, mais on peut dire peut-être en quelques mots que pour lui, les couleurs avaient un pouvoir émotif, vraiment des effets psychologiques extrêmement forts.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur des mises en tension, finalement, et des relations que peuvent de deux couleurs mises en relation, pardon, et ce qu'elles peuvent opérer sur l'affect, sur le sentiment, sur la nécessité intérieure, en fait. Et l'enjeu, c'était ça. C'était d'essayer d'aller travailler. Et ça fait des années que je cherche comme ça dans les villes, la nuit, dans les couleurs du quotidien, de la façon dont les gens s'éclairent. Il faut savoir que chaque ampoule a une couleur différente. Il n'y a pas que les néons, hein. Et l'idée, c'était d'essayer d'aller voir comme ça dans les couleurs du quotidien comment les gens fabriquent des tensions et donc finalement des ambiances qui génèrent un sentiment, et d'essayer d'aller capturer ça. Donc là, c'était vraiment un travail sur la masse colorée. Et puis dans Tokyo,
Et ce sont vos recherches sur les couleurs qui vous ont mené à Tokyo, ou c'est Tokyo qui vous a réveiller cette recherche-là ?
Non, j'avais déjà entamé ce travail de recherche, mais une fois que je me suis trouvé à Tokyo, j'étais fasciné. Il fait jour la nuit tellement il y a de lumière, et donc j'ai erré comme ça pendant toutes les nuits à essayer de...
Vous dites, j'ai erré toutes les nuits avec une banane absolument phénoménale.
Oui,
On sent les bonnes errances. Hein.
Bah oui, parce que c'était vraiment une fascination. J'étais envoûté, quoi. Et c'était vraiment... J'ai vraiment plongé dans Tokyo, en fait. J'avais vraiment envie d'essayer d'en tirer quelque chose, d'en faire cet essai qui est effectivement un peu à la marge de ce que je fais d'habitude. Donc c'était finalement assez incertain et peut-être plus intime. Donc c'est toujours des registres avec lesquels on a un peu moins de certitude.
Ça a été un coup de foudre immédiat, Tokyo, ou c'est une ville qui s'apprivoise petit à petit ?
Pour moi, c'était immédiat, mais je ne doute pas qu'il faille encore beaucoup de temps pour que j'arrive à l'apprivoiser.
Xavier Demoulin, vous connaissez Tokyo ?
Non, je ne connais pas Tokyo. Je connais assez bien l'Asie, mais pas Tokyo, hélas. En tout cas, pour les lumières, je le rejoins tout à fait. Par exemple, Shanghai, qui est peut-être encore un peu plus loin que Tokyo en termes de luminosité, c'est vraiment ce que vous dites. C'est-à-dire que même la nuit, il fait jour tellement c'est éclairé. Et en matière d'errance, en tout cas, Shanghai, Pékin ou autre, ouais, il y a de quoi faire. Donc j'imagine à Tokyo... Les chemins doivent être vastes, Charlotte.
Sur le livre, Samuel, vous avez une très jolie phrase où vous dites qu'à Tokyo, il y a la résonance des couleurs, celle qui nous invite à rêver d'une rencontre.
Oui, parce que peut-être que c'est un travail que j'ai fait il y a un petit moment.
En 2002.
C'est vrai que, voilà. Et même s'il est atemporel, je pense que j'avais aussi le rêve de tomber amoureux à ce moment-là. Je l'ai toujours, sauf qu'il se trouve que ça s'est produit.
Tant mieux.
Mais du coup, effectivement, je pense que c'est aussi ce qui m'a guidé dans mon errance et cette fascination. Je trouvais les femmes belles, j'avais envie comme ça de marcher avec elles, d'essayer de les photographier, d'essayer d'attraper quelque chose comme ça.
Et alors, si Tokyo était une couleur, ça serait laquelle ?
Ah, ça c'est dur. Parce que c'est un contraste coloré.
C'est le contraste, oui.
Il faut qu'il y ait du rouge, mais il y a toujours du jaune dans mes images. Et puis, dans Tokyo, je crois qu'il y a aussi, il y a aussi du bleu, donc finalement, il y a toutes les couleurs. Non, c'est marrant parce que justement sur la Chine, moi j'avais fait tout un travail vraiment sur le revers du miracle économique chinois, et donc j'ai jamais pu ressentir ça à Shanghai ou à Pékin.
Ah ouais.
Mais parce que j'étais tellement sur ce revers social que j'arrivais, peut-être que je pouvais pas aller me laisser justement fermer les yeux et essayer de partir dans ce rêve, parce que le seul texte qui est dans ce livre, c'est aussi ce haïku, et pour moi c'est vraiment ça, c'est une espèce de rêve éveillé.
Mais il y a aussi un revers économique à Tokyo, on imagine aussi.
Évidemment, sauf que c'est un revers qui est peut-être plus commun. Xavier Demoulin. Il est peut-être, on le partage plus peut-être, alors que le revers économique de la Chine, on en profite beaucoup, mais on en a peut-être un peu moins conscience. Donc, c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal à m'enivrer, alors qu'à Tokyo, c'était plus facile de trouver cette ivresse.
Xavier Demoulin, vous qui avez tant parcouru Paris la nuit pendant ces années de Paris dernière, sur Paris première, si Paris était une couleur ?
Si Paris était une couleur, moi je pense que ça serait le jaune. Un jaune un peu ocre, comme ça, un peu comme une coupe de champagne, vous voyez. Une espèce de truc. Pourquoi ? Parce que en fait, Paris, elle s'est éclairée de manière très particulière. On s'en rend compte avec les. Il y a des réverbérations qui sont récentes, anciennes, etc. Et tout ce qu'on fond, plus la pollution, plus le ciel bas, triste, comme un couvercle, fait que il y a cette espèce de jaune qui ressort en permanence. Et quand vous filmez, c'est la première couleur qui apparaît. Après, il faut trouver des astuces de réglage, etc. pour pouvoir retrouver les autres couleurs. Want it, find it, see it, get it, be rich now or just forget it, earn it, steal it, beg it, buy it, can't stay broke, you gotta try, dream it, plan it, chance it, risk it, bring your guns, machete, ratchet, load it, lock it, pockets, drop it, ungun, long guns, automatic, hunt it, search it, time it, find it, wire fence and wall, they climb it, breach it, break it, reach it, take it, dog is sleeping, don't you wake it, have it, hold it, clench it, hide it, cops or goons and guns beside it, fence it, raid it, beat it, skate it, who get caught them, cops with jaded, early check it, stop, inspect it, look who's here, constable, back it, knob it, cough it, jeep it, truck it, pull no stunt, kick it, the bucket, freeze it, freeze it, cock it, squeeze it, punctured brain, nobody needs it, truck it, trace it, pick it, waste it, gunshot, bore your face and space it, chop it, bash it, smash it, scrape it, try you may, but can't escape it, rise it, gauge it, bust it, blaze it, cops had gone, a bullet, shave it, shoot it, kill it, mute it, steal it, got one life, you can't refill it, know it, free it, saw it, laws and rules we wrote it.
Jamaican par Tricky et Terry Lynn, extrait de l'album Mixed Race, paru en 2010. Vous êtes toujours sur France Inter dans Voulez-vous sortir avec moi, avec Serge Le Borgne, Mélanie Canard, Xavier Demoulin, qui aime beaucoup Tricky et Terry Lynn, et Samuel Bollendorf pour son livre de photos Tokyo. Samuel, vous avez organisé et présidé le collectif Œil Public jusqu'en 2010, qui regroupait une dizaine de photographes indépendants. C'était une très belle aventure pendant une dizaine d'années. Et pourquoi vous avez arrêté ?
15 ans même.
15 ans ?
On a arrêté parce que c'était vraiment un modèle qui était entièrement tourné vers la presse, avec des photographes qui étaient rassemblés vraiment pour raconter des histoires, pour mener des enquêtes au long cours. Et la crise de la presse fait que c'est plus comme ça qu'on arrive à produire ces enquêtes au long cours. Donc on a préféré arrêter pour justement nous ne pas mourir, parce que c'était vraiment un objet de partage et ça devenait plus difficile de continuer à le partager. Alors qu'avant, ça avait toujours été justement un outil de création, de production et de liberté. Donc les photographes de l'œil public vont tous mieux continuer les uns que les autres. Mais effectivement, on a préféré arrêter ce modèle. C'est la fin d'un modèle et puis il faut chercher l'autre.
Vous n'avez pas abandonné pour autant vos convictions de photo comme un outil de réflexion politique ?
Absolument pas. Et d'ailleurs, je cherche toujours en permanence le moyen de continuer à produire ce type d'histoire et à trouver les meilleurs modes de narration, finalement, pour pouvoir continuer à déployer ce type d'enquête et puis à trouver les fonds.
En 2008, vous aviez réalisé le premier web documentaire interactif, Voyage au bout du charbon, qui était visité sur le site du Monde, lemonde.fr. Il y a eu plus de 200 000 visites. Est-ce que brièvement, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est un web documentaire interactif ?
Un web documentaire interactif, c'est vraiment un documentaire qui tente de se saisir de la singularité du web, et c'est-à-dire notamment l'interactivité. Donc ça peut être avec de la vidéo, avec de la photographie, avec du son, avec du texte, évidemment avec du web design et de l'interactivité. C'est d'essayer d'utiliser tous ces médiums pour raconter une histoire documentaire. Alors c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est au maximum d'essayer de trouver la forme qui permette à la photographie de continuer et à la photographie documentaire de continuer à exister. Donc je travaille beaucoup justement avec des gens de radio de plus en plus, parce que le binôme photographie et son,
fonctionne très bien.
Et il fonctionne particulièrement bien avec le web, parce que justement cette interactivité, elle permet de prendre le temps. Et le son, il vient raconter tout ce qu'il y a autour de l'image. Et ce duo-là, c'est fantastique.
C'est vrai que concrètement, on a une image et si on clique dessus, on peut avoir le son qui lui correspond ou pas. Mais même en cliquant sur des détails de l'image, on a accès à des vidéos ou à des documents. Et donc chaque surfeur, enfin en tout cas utilisateur d'Internet, fait son propre chemin et peut fouiller de plus en plus sur ce terrain-là. Il est là pour vous, l'avenir du documentaire aujourd'hui ?
Je ne sais pas si l'avenir est là. En tout cas, c'est une des portes. Évidemment que le problème du web, c'est qu'on a encore des problèmes de financement, parce que évidemment qu'économiquement, c'est encore un peu compliqué. Mais c'est une porte qui permet de faire exister le projet. Et finalement, quand il y a le projet sur le web, il peut y avoir le matériel de base reste quand même la photographie. Et donc, ça peut aussi donner lieu à une publication en presse, parce que la presse consomme des reportages, même si elle les produit plus. Ça peut donner lieu à une exposition, à un livre, et finalement c'est l'ensemble de ces modes de diffusion qui permet à un projet peut-être un peu lourd et un peu ambitieux d'exister. Donc voilà, c'est une pierre supplémentaire à l'édifice.
Il y avait eu donc le vôtre en 2008, Voyage au bout du charbon, plus récemment Prison Valley, qui était entièrement consacré donc à une région américaine et à une ville qui ne vit que pour, par et autour du commerce des prisons, qui a remporté aussi beaucoup de prix comme le vôtre. Xavier Demoulin, maintenant que vous êtes donc au JT d'M6, est-ce qu'il n'y a pas des idées à piquer là-dedans ?
Ah, il y a plein de choses à faire en termes d'interactivité dont parle Samuel. Il y a énormément de choses à faire. La télévision aujourd'hui est à réinventer à travers ces données-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens maintenant qui consomment la télévision sur Internet, sur les tablettes, les téléphones, etc. Et je pense qu'on est vraiment à un carrefour, et c'est très intéressant de se mettre là-dessus. Après, la base de départ aujourd'hui, elle sera sur le réseau, social, web, etc. Et après, les gens vont consommer, comme bon leur semblera, l'information, et c'est à nous de la repenser, de réagencer tout ça. Pas uniquement pour faire gadget ou cosmétique, quoi. Faut que ça fasse sens, encore une fois. Et dans le JT du 1945, on pratique cette interactivité avec le site de MSN, etc. Il y a pas mal de renvois mutuels et tout. Les gens aiment bien, les gens ont besoin, il y a une vraie demande de ça. Et je pense que l'information aujourd'hui, elle doit se consommer de manière collective. Et c'est ça qui est bien. Après, je ne sais pas économiquement comment vous faites pour vous y retrouver, parce que ce qu'il dit
c'est un
important.
Très, très long travail, hein,
la
pour
production,
les
il faut que ces gens-là vivent, il faut qu'ils puissent aussi continuer à créer, à avoir des idées. Et pour ça, il faut qu'ils bouffent, quoi. Donc, il y a un problème économique à résoudre, ce que n'a pas encore forcément à faire la télévision.
Mais ça va venir très probablement. Donc Tokyo par Samuel Bollendorf, je rappelle, est aux éditions Democratic Books. Et puis vos photos sont exposées en ce moment même au petit endroit, c'est une galerie, jusqu'au 15 janvier, c'est à Paris, dans le 3e arrondissement. Une galerie, j'imagine, Serge Le Born, que vous connaissez bien.
Très bien.
Grand merci à la technique, Pierre Quintard et Patrice Klein. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et préparée par Joël Levert. Demain, nous parlerons jazz avec le pianiste Laurent De Wilde et André Manoukian, ainsi que du Béjart Ballet Lausanne avec son nouveau directeur, Gilles Roman, qui a la lourde tâche de succéder au maître. Tout de suite après le journal, vous avez rendez-vous avec les Nuits de la Vige. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Inter. Vous êtes sur France Inter, il est minuit.